One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
C'est le bruit du beurre qui fond dans la poêle. Bonjour à tous et bienvenue pour la 43e étape qui démarre à Brignogan et qui va se terminer, si tout se passe bien, à Plouguerneau. C'est rare que je connaisse le terme de mon étape là à 8h du matin. Mon arrivée jusqu'à Brest, j'ai de plus en plus de propositions. Je crois que je pourrais faire des étapes bientôt de 300, 400 mètres. Qu'est-ce que tu viens de verser dans la poêle?
La pâte à crêpes pour faire le Farspitilig.
Qui est une espèce de grosse crêpe.
Bien beurrée, bien sucrée, qu'on retourne dans la poêle et qu'on va amener à une cuisson un peu crayenne, comme on dit ici, quoi, un peu grillée.
J'en ai déjà mangé hier, c'est délicieux. Lui, il s'appelle Luc, elle s'appelle Christine. Et ils ont eu la gentillesse de m'héberger dans un lieu qui est magnifique, à Brignogan. C'est à la fois une brocante, mais à la fois ils font chambre d'hôte. Et ça s'appelle l'hôte antique. Pas mal, fallait la trouver. Christine, quel est ton rêve?
Mon rêve, tout simplement, que tout se passe bien, que mes enfants se portent bien, mes petits-enfants se portent bien, mes amis, les gens autour de moi, et voilà. J'ai pas de rêve particulier de partir quelque part ou de... Non, je suis bien ici à Brignogan. Je vais me baigner quand je veux.
Tu t'es déjà baigné depuis le début de l'année?
Non, pas encore, mais ça va pas tarder.
Ah.
Dès le premier rayon de soleil, je suis dans l'eau.
Donc d'ici octobre.
En espérant, oui.
Quand je suis arrivé chez eux hier, il y avait une traînée d'eau qui me suivait. Donc voilà, j'étais pas prêt de me baigner. Quel est ton métier?
Je suis brocanteuse.
Et comment t'en es venue là?
Alors, j'ai vendu mon entreprise. Je tenais une entreprise de travaux agricoles pendant 37 ans. Ma fille a repris le relais avec mes salariés. Et voilà, du coup, j'ai un virage à 180 degrés parce que c'était une passion. Une passion depuis très longtemps. Et voilà, ça a été l'opportunité avec Luc. On avait le lieu. Luc avait le lieu. Voilà. Et puis, on a ouvert cette brocante depuis le 1er novembre. Et puis, je m'éclate. C'est génial.
Ah oui, c'est tout récent.
C'est tout récent. Ouais, ouais, c'est tout neuf, c'est il y a 6 mois. C'est beaucoup de travail, c'est très prenant, mais c'est top.
Tu fais partie de ces brocanteurs qui, dès le matin, vont sur le bon coin, chercher, fouiner des trucs. Est-ce que tu as un créneau particulier?
Oui, on cherche par le bon coin, on va dans les déballages au Mans, à Chartres. Et les créneaux particuliers, oui, c'est du meuble de métier qu'on retape. Et voilà, de la décoration, on fait aussi un petit peu de neuf en luminaire, voilà.
Je dois dire que les chambres sont décorées avec un goût. J'ai particulièrement apprécié l'abat-jour qui me faisait penser à un bidon de lait.
C'est pas un bidon, c'était pour filtrer le lait à l'époque. Quand ils mettaient un filtre de papier, ils versaient le lait et ça coulait dans le bidon.
Et Luc, quel est ton rêve?
Que ça se calme, que les gens deviennent un peu plus intelligents et qu'on puisse augurer d'un avenir plus serein. Parce que j'ai des petits-enfants et j'aimerais bien que ça continue.
Qu'est-ce qui t'inquiète le plus?
L'homme. Nos dirigeants, la vanité, la bêtise, la non-réflexion. Ça m'inquiète. Mais je perdure, je continue à avoir mes rêves de brocante, de jardin, de cuisine, mes passions. Et voilà, j'ai aussi envie de transmettre à mes petits-enfants le fait de pouvoir faire cet acte d'amour, de faire à manger, donner à manger aux autres. Je pense que c'est important. Et puis aussi, important d'aller se promener dans l'Estran ici, voir cet amoncellement de granit, toutes ces bestioles qui vivent sous le Goémon, parmi La mer, les goélands, la nature à l'état brut. Parce que les gens oublient tout ça. Il faut revenir à tout ça, rapidement.
Parce qu'il faut le dire, toi, avant d'être brocanteur, tu faisais table d'hôte, chambre d'hôte.
Ah, je fais toujours chambre d'hôte, petit déjeuner. J'ai arrêté ma table en septembre dernier, après 9 ans de table d'hôte, donc pratiquement tous les soirs. Et voilà. Et mon rapport à la nature, c'est mon ancien métier, j'étais paysagiste. Mon rapport à l'homme, c'était que j'étais ambulancier.
Ah oui.
Donc, voilà.
Tu as commencé comme ambulancier ?
Non, j'ai commencé comme... je travaillais dans une scierie. Je coupais du bois pour faire des planches. Voilà. Après, la vie a fait que...
Et là, vous assistez en direct, Luc prépare son couvercle de casserole qu'il badigeonne de beurre.
Et afin que le fard spitilig retourné ne colle pas au couvercle, parce qu'il y a une bonne couche de beurre.
Là, il vous livre vraiment un secret de fabrication.
Hein. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est bien de transmettre.
Merci. On apprécie ta générosité. Attention. L'artiste prend le manche de la poêle et la retourne. Le pitlick apparaît jaune et marron.
Un peu crayenne. Un peu grillé, c'est ce qu'il faut.
Voilà.
Voilà.
Et là, ça repart. Bon, bah, écoutez, merci. Merci aussi pour la soupe de Janine hier, qui était délicieuse avec tous ces poissons, crevettes et ces légumes. C'était un repas de fête.
Ben oui, c'est simple. Un bouillon, poireaux, pommes de terre, branches de céleri, un fond de poisson, de la crème, sel, poivre. Et on finit par y mettre du lieu jaune, le roi du poisson de la côte nord du pays Pagan, où nous vivons, de la truite fumée et des crevettes. Et tout ça, on finit par un bon trait de crème. Bien pour le bidon.
C'est délicieux. Petite précision, on est dans le pays Pagan. Moi, je croyais qu'on était dans le Léon, je suis perdu.
Oui, mais dans le Léon, il y a différents pays. Il y a le Haut-Léon, Saint-Paul-le-Léon, tout ce secteur-là. Ici, vous êtes dans le pays Pagan, le pays des païens. Après, vers Plouguerneau, on passe sur le pays des Abers. Et après les Abers, en face de Ouessant et Pointe-Saint-Mathieu, c'est le pays d'Iroise. Voilà.
Et bien avec ces précisions, je ne vais pas me perdre. Je vous remercie encore tous les deux et je vous dis bonne balado à tous.
Kenavo.
Kenavo à Véchal. Voilà, parce que moi, je ne sais pas comment ça parler breton maintenant. Et voilà, j'ai laissé Luc qui était en train de préparer ses chambres parce que quand même c'est le week-end du 1er mai, donc il avait des clients. Et en plus, à midi, là, il partait fêter les 1 an du petit-fils de Christine qui s'appelle Elliot. Et son cadeau, je peux vous le dire, c'était 2 lapins. Et de vrais lapins. Et l'étape démarre sous le soleil. Il fait 11 degrés, c'est idéal. C'est encore marée basse. Je vous avais dit, Luc m'a indiqué sa maison en disant que c'est le plus beau portail de Bretagne. Bon, bah, j'ai fait une photo, hein, elle sera sur Insta. Vous pourrez donner votre avis. C'est vrai qu'il est joli son portail. Vous aimez bien savoir comment je suis arrivé chez Luc. Christine, que j'ai interviewée dans une balado à la mi-septembre 2023, une balado qui s'appelle « L'écrivain, le moine, le berger et le loup ». Eh bien, le berger, c'était le beau-fils de Christine, que j'ai rencontré grâce à elle. Et quand elle a su que j'étais par ici, elle m'a dit « Ah, mais tu peux aller chez mon ex-mari ». Et donc voilà, Luc était l'ex-mari de Christine. Voilà, comme ça, vous avez la chaîne. Attention, voilà des vélos. Et là, j'arrive dans une ferme, parce que hier, chez Luc et Christine, j'ai rencontré Patrick et Véronique. Et Patrick, il est agriculteur à Goulven. Et il m'a dit, il faut que tu passes. Je suis un petit peu revenu sur mes pas. Patrick ! Là, il y a toutes les vaches qui sont en train de manger. Ça va les vaches ? Belles vaches, certaines qui ont leurs cornes, d'autres qui ont les cornes coupées. Là, il est juste au bord du sentier côtier. Et en plus, ils ont une boutique que tient Véronique, où ils vendent que des produits locaux. Ah ben voilà Véronique.
Donc ouvert tous les jours de la semaine, sauf le dimanche, jour férié. Et ce qui permet en fait au plus grand nombre de pouvoir profiter du magasin du fait de l'amplitude horaire.
Ce que vous me disiez hier, c'est que le chiffre d'affaires de la boutique, il est supérieur au chiffre d'affaires de l'exploitation.
De l'exploitation, oui, tout à fait. On a développé en fait le magasin et on propose une offre suffisante pour tout trouver au magasin, de quoi préparer un repas. Donc ça va de l'entrée au dessert, avec les produits de la ferme et des producteurs locaux.
Le seul truc qu'il n'y a pas, c'est du pain.
Alors le pain, on l'a deux fois par semaine. Donc c'est un paysan boulanger qui nous livre le mardi et le jeudi. Je suis admirative de ces personnes-là qui cultivent leurs céréales et qui transforment en farine pour ensuite faire eux-mêmes leur pain cuit au feu de bois et au levain naturel. Donc vraiment un produit au top.
Et il est où ce producteur ?
Alors ce producteur est tout à côté, à Tréflaise, la commune limitrophe.
J'ai vu marquer ça.
Voilà.
Sur
plein le Boutoc. Et on a aussi une autre personne qui fait ses produits aussi de la fourche à la fourchette, c'est Miloé, qui cultive également ses céréales pour ensuite transformer en pâte fermière.
Que vous vendez ici ?
Oui.
Et donc là, c'est la viande de la ferme ?
Oui, alors Patrick est éleveur de bovins et de porcs, donc on transforme en fait la viande pour pouvoir la proposer à la clientèle.
Et alors la côte de bœuf, elle est à combien le kilo par exemple ?
21,50 le kilo.
Ah ouais.
Voilà.
Pour de la viande bio.
Ce n'est pas de la viande bio. On est en agriculture raisonnée. Et pour ce qui est de la viande, c'est de la race à viande uniquement.
Et il est où le Patrick ?
Alors le Patrick, on l'attend toujours, Patrick. Hein.
Ah c'est ça ?
Voilà.
Quel est ton rêve, Véronique ?
Aujourd'hui, je suis comblée. J'ai pu en fait gérer un magasin. Alors que moi, auparavant, j'étais dans le commerce, j'étais vraiment l'employé, enfin responsable de mon rayon, mais j'avais un directeur, enfin tout le circuit classique. Et là, aujourd'hui, c'est moi en fait qui gère tout ce magasin-là.
C'est toi la chef.
C'est moi la chef.
Donc,
c'est moi la chef.
Donc tu vis
mais
ton
je
rêve.
N'ai pas cette âme de chef. Alors, ben, c'est pas évident toujours. Moi, c'est une satisfaction personnelle et puis une revanche un petit peu sur la vie. Et mon souhait, c'est pour que je sois heureuse, c'est que toutes mes proches soient en bonne santé, qu'il n'y ait pas de problème et que les enfants se portent bien et que tout va bien. Voilà.
C'est le cas aujourd'hui ?
Oui, c'est le cas aujourd'hui et je voudrais que ça continue.
Bon,
voilà.
Alors je te le souhaite.
Merci.
Et tu parles de revanche sur la vie.
Je n'ai pas fait d'études, enfin c'était mon choix en fait. Après la cinquième, au collège, je suis allée en professionnel. Donc j'ai fait mais en fait j'ai toujours fait ce que je voulais en fait. Et je suis allée en maison familiale, je trouve que c'est une bonne école où on apprend la vie, un peu de la vie en société, en pension. J'ai eu mon CAP de vendeuse et avec ce CAP de vendeuse, j'ai travaillé pendant 33 ans donc, en tant que responsable de rayon, charcuterie, rayon en vente traditionnelle. Et après, ben, c'est là que j'ai donc, quand les enfants étaient grands, osé reprendre mes études. Et j'ai validé un bac pro, un BTS MUC et j'ai fait la formation de formateur pour adultes, et donc j'ai été 4 ans formatrice pour adultes. Et c'est pas évident, quand on a fait plus de 30 ans, on se sent pas forcément légitime à un moment, au début, quand on a eu des diplômes sur le tas. Donc c'est pour ça que je dis, c'est un peu une revanche sur la vie.
Et je viens de voir passer le tracteur.
Oui.
Merci Véronique.
Merci, bonne journée, à bientôt.
Merci, à bientôt, au revoir. Ça va Patrick ?
T'es avec ton micro là ?
Bah oui.
Bah oui. Tu te balades pas à 100.
Tu peux me montrer tes vaches ?
Ouais, ouais.
Bonjour.
Un de mes frères.
Ah, enchanté. Tu donnes pas son prénom, tu dis un de tes
André.
Frères.
j'ai deux frères handicapés qui ont un handicap et qui vivent à la maison.
Ah, d'accord. Voilà. Et c'est quoi leur handicap ?
C'est un truc génétique. Ils ont une diminution quoi, intellectuelle, mais ils sont très intelligents. Ils ont des capacités que nous, on n'a pas.
On rentre dans l'étable ?
Ouais. Là, c'est des limousines que l'on engraisse. Donc, toutes les bêtes gentilles, on garde une dizaine par an pour reproduire. Quoi. Ceux-là n'auront pas la chance de se faire reproduire. C'est de la viande de génisse, quoi, la viande de qualité. Celle que tu ne trouveras pas dans le supermarché.
Mais que je peux trouver ici, dans la boutique.
Et dans les petites boucheries du coin.
Ouais.
Donc là, il y a trois races. Il y a les blondes aquitaines, les claires.
Ouais.
Les vaches maquillées sont des partenaises. Et les rouges sont des limousines.
J'aime bien quand tu parles des vaches maquillées, parce qu'elles ont les yeux.
Ouais. Je dis aux enfants, regardez, je les ai maquillées. Donc les extrémités sont noires, les yeux sont noirs, les pointes des oreilles et le nez et la langue sont noires. Et les sabots sont noirs aussi. Et elles sont très dociles.
Et alors, t'en as combien en tout de...
250.
250.
Ouais.
Et alors, j'étais étonné parce que tout à l'heure, Véronique, je lui demandais si vous travailliez en bio. Elle me dit non, c'est de l'agriculture raisonnée. Et quand j'en ai parlé avec André Pochon, il dit « l'agriculture raisonnée, c'est du foutage de gueule ».
Non, je ne suis pas d'accord du tout avec lui. Il faut que l'agriculture aille vers le bio et le durable, mais on n'est plus autant des esclaves, les désherbants du sol. Vous voyez une vingtaine de personnes dans un champ, là, actuellement, dans la zone légumière, vous allez leur parler, vous leur parlez roumain. Ben, les bio, en grande culture, s'il n'y a pas de main-d'œuvre étrangère, ils n'existent pas. Parce que les Français ne vont pas se mettre à sarcler. Donc il y a un équilibre à trouver, il y a un équilibre intelligent. Il y a eu moi quand j'étais à l'école, donc je vais avoir 60 ans à l'école, on ne parlait que de chimie, quoi. Mais la chimie a ses limites, quoi. Donc il faut être raisonnable. Par exemple, ces prairies en face de toi, là, par rapport aux véganes, ils sont en train de nous emmerder, les véganes. 60% du territoire français, c'est des montagnes ou des prairies. Là, on peut cultiver que de l'herbe, on peut élever que des animaux, sinon c'est de la friche. Et là, il n'y a pas de pesticides, y a pas l'herbe pousse toute seule.
Ouais.
Là, je suis d'accord avec André Pochon. Mais André Pochon, quand il y a un problème de sécheresse ou un problème de stockage d'hiver ou de printemps froid, les gens qui utilisent sa méthode, ils ont des problèmes. Parce que nous, on stocke du maïs en hiver, il y a une sécheresse, ce n'est pas grave, on a du stock. On n'est plus énervé comme les années 76 où tout le monde paniquait. Avec le système-là, avec le maïs, on a du stock. On n'est pas pris à la gorge comme eux, ils peuvent être pris.
Pourquoi toi, tu aimes le mot paysan ?
Paysan, c'est travailler le terrain de mes ancêtres. C'est la ferme, c'est mon grand-père qui l'a créée. Mon père l'a développée et moi, je l'ai encore développée. Mais je ne fais que reproduire les gestes de mes parents, mes grands-parents. Parce qu'à l'école, on va nous apprendre des techniques pour tel et tel type de sol. Mais chaque paysan doit être adapté à son sol. Mes collègues ont mis leurs bêtes dehors. Moi, je ne peux pas parce que j'ai un terrain argileux. Et puis c'est tout. Je m'adapte à mon sol et puis c'est tout. Un paysan s'adapte à son sol.
Et alors, est-ce qu'en tant que paysan, tu as fait partie de ceux qui sont allés manifester ces derniers temps ?
Oui, je suis un petit leader syndical, mais je fais partie de la coordination rurale. Donc, pas la FNSEA, justement, c'est eux qui nous ont mis dans cette situation de merde, là, avec des primes. Plus on a des primes, plus on est gros, plus on touche des primes. Ça, c'est pas normal du tout. Les bêtes à viande, 150% du revenu, ce sont des primes. La viande que vous achetez, elle devrait être 2,5 fois plus chère pour que l'agriculteur gagne sa croûte. Les primes PAC ont été mises en place pour avoir une nourriture pas chère. Et ça a tellement bien fonctionné que tous les agriculteurs ont disparu, mais on gagne plus notre croûte et on est obligé d'avoir des primes. Et prime égale contrôle. Il y a une période hivernale très dure. Il y a eu un déclic, c'est l'obligation de garder en herbe, donc, au niveau européen, un pourcentage d'herbe. Donc ça a mis le feu aux poudres parce que justement l'élevage disparaît. Donc l'élevage égale de l'herbe. Donc les gens qui ont de la bonne terre, il vaut mieux qu'ils cultivent des céréales ou des choses très simples à faire que d'élever des vaches laitières, quoi. Et là, on leur demandait, vous aviez de l'herbe, vous n'avez plus le droit de mettre que de l'herbe, quoi. Ouais, mais il n'y a plus de vaches. Donc ça a mis le feu aux poudres, mais c'est un ras-le-bol général, quoi. Financièrement, moi, je ne me plains pas, hein, mais c'est un ras-le-bol général. Des décisions qui sont prises à l'encontre du bon sens.
Donc toi, tu fais de la vache allaitante, et alors tu touches des primes, toi ?
Oui. Oui.
Mais alors, tu voudrais qu'on arrête ces primes et qu'on vende la viande plus chère ?
On est piégé, justement. On peut se plaindre de la PAC, mais on ne peut plus faire sans. Donc finalement, on nous a injecté de l'argent dans l'agriculture, et maintenant, on ne peut plus s'en passer. Oui. On vit sous perfusion. Mon grand-père a vécu sans prêt et sans aide. Mon père a vécu avec des prêts, mais pas d'aide. Et moi, je vis avec des prêts et des aides. Mais je ne me plains pas financièrement, ça va, quoi. Mais on est piégé, on ne peut pas faire marche arrière. On ne peut plus faire marche arrière.
Et alors comment tu imagines l'avenir ?
L'avenir, la nouvelle génération déjà d'agriculteurs, ils seront plus sérieux que nous. Si ça ne paye pas, ils arrêtent et ils vont travailler raisonnablement. Moi, je travaille 80-90 heures par semaine. C'est devenu une drogue le travail, quoi. On ne pense pas, on travaille parce qu'il faut travailler et puis c'est tout. Mais les jeunes aujourd'hui vont raisonner résultat. On va vers le naturel automatiquement. Parce que soit on est industriel, soit on est en extensif. Et en extensif, on colle le plus possible à la nature. Et en industriel, ils sont piégés et ils sont à 100% d'endettement. Finalement, c'est les banquiers qui commandent. Je suis fier de dire que ma ferme, elle a 25% d'endettement. Ce que tu vois là, c'est à moi. Je suis propriétaire. Il y a certains qui vont nous monter des super boutiques automatisées à bloc et tu vas demander la comptabilité, 120% d'endettement. Il n'y a rien à toi. Tout est à la coopérative ou à la banque. Donc, tant que tu apportes du résultat, tu es le meilleur du monde. T'es pas bon, c'est pas grave, on va te dégager, on met quelqu'un à sa place.
Toi, t'as quelqu'un qui va prendre la suite, t'as un enfant ?
Non, j'ai pas eu le temps de faire des enfants, j'ai trop travaillé justement, j'ai travaillé... Donc mon grand-père a fait vivre sa famille avec 7 hectares. Mon père, quand il m'a laissé la ferme, elle faisait 50 hectares, il a fait vivre sa famille. Et moi, je suis célibataire et j'ai 100 hectares. 100 hectares, il y a 4 salariés, toujours pour le même résultat, c'est juste pour vivre, quoi. Donc un agriculteur fait 30 fois plus, moi je fais 30 fois plus de production que mon grand-père, quoi. Ça, c'est la moyenne nationale, quoi. 30 fois plus. On est devenu beaucoup trop performant, mais on est saturé de travail.
C'est quand la dernière fois que tu as pris des vacances ?
Ben, j'ai perdu ma maman il y a 2 ans, donc depuis, je n'ai pas pris. Les premières vacances que j'ai prises, par contre, c'est à 50 ans. 50 ans avant de se donner le droit de quitter le troupeau, quoi. Donc,
Et t'es allé où alors ?
En Irlande. Par contre, j'ai entendu ce que Pochon a dit, ou le Patrick, le gars qui t'a logé là, et c'est très important aussi aux agriculteurs, et c'est ça la nouvelle génération, de quitter, on est dans notre profession, on est esclave de notre travail, et avec nos problèmes, et on ne va pas voir ailleurs. Mais les autres, ils ont d'autres problèmes aussi, et puis s'ouvrir aux autres. Souvent, je dis que les gens des villes connaissent l'agriculture par l'amour est dans le pré, les manifestations violentes et les primes, quoi. Mais l'agriculture, c'est pas ça du tout. Et ce que tu fais là, c'est très bien, c'est la France en vrai, quoi. C'est pas ça du tout. L'amour est dans le pré, c'est que du cinéma. Ça ne correspond pas du tout. C'est une honte. Par contre, des paysages sont merveilleux, la caméra est merveilleuse, mais c'est une honte de montrer des agriculteurs dans cette situation-là. C'est pas ça l'agriculture. C'est pas ça. C'est ni le bio, ni l'intensif, l'agriculture. C'est l'entre-deux. 90% des agriculteurs, c'est entre-deux. Les primes, la FNSEA est commandée par des céréaliers, quoi. Mais ce n'est pas des paysans, ces gens-là, ils travaillent 4 mois de l'année. Un éleveur, c'est toute l'année.
Et tu es d'accord avec le Patrick qui m'a hébergé pour dire que le ministère de l'Agriculture, ce n'est pas le ministère, c'est la FNSEA ?
Oui, ouais. C'est de la co-gérance. Donc on a beau dire ce qu'on veut. Par exemple, j'avais vu un des ministres qui était parti et qui disait c'est l'État qui nomme le ministre. Mais s'il ne plaît pas à la FNSEA, il ne sera jamais ministre. Il faut qu'il soit déjà dans les clous. Le ministre actuel, c'est le porte-parole de la FNSEA, c'est tout, quoi. Et quand il y a des manifestations, justement, c'est que du cinéma. Et ce qu'on a obtenu, c'est rien du tout, quoi. C'est pas ça qu'on cherche.
Et alors, que va devenir ta ferme ?
Ben, j'ai une petite apprentie là, que j'appelle ma fille de cœur, justement. J'aimerais bien, justement, je suis en train de virer mon troupeau en partenaise parce que c'est des bêtes... très docile, et une femme pourrait mener ce troupeau là très facilement, quoi. Je suis en train d'adapter mon troupeau et j'aimerais autant donner ma ferme à quelqu'un qui va continuer ce que je fais plutôt que m'enrichir en donnant à l'agriculteur qui va me payer le plus cher à côté et détruire ce que j'ai construit, quoi. J'aimerais bien perdurer dans l'outil que j'ai fait et viable et rentable et j'aimerais bien que quelqu'un continue, quoi. Et beaucoup d'agriculteurs, justement, ils sont déçus de devoir donner leur ferme à des gros. Ils auraient bien aimé que quelqu'un reprenne l'exploitation telle qu'elle est et continuer, parce qu'on peut vivre. Il faut arrêter de nous dire qu'on est des mendiants, quoi. On vit très bien. On vit très bien.
Quel est ton rêve, Patrick ?
Mon rêve ? Déjà, pour mes 60 ans, je t'ai dit que je voulais faire le tour de l'Irlande en tracteur, pour son originalité. Il n'y a rien de pire que de ne pas exister, quoi. Et j'ai l'impression qu'en vieillissant, là, quand j'étais jeune, j'avais des remboursements jusqu'à 7000 euros par mois de crédit. Donc c'était énorme. Donc là, je n'avais pas le droit de lever la tête, il fallait foncer. Mais tous ces crédits-là sont remboursés, et ben, je relève la tête, je suis propriétaire chez moi, j'ai plus peur de l'avenir. L'avenir, il est serein pour moi. Et il y a pas mal de choses en agriculture à faire, justement. Quelqu'un comme moi, j'aurai une petite retraite, donc souvent le problème des agriculteurs, c'est qu'ils vendent pour avoir du capital, pour avoir une retraite comme tout le monde, quoi. Souvent, un agriculteur naît pauvre et meurt riche. On ne fait que capitaliser toute notre vie, et on ne profite de rien. Et quand je me retourne, moi, je me dis, mais j'ai fait ça pour qui ? Pourquoi ? Je gagne 1500 euros par mois, ma ferme vaut 2 millions d'euros, si je la vendais, mais pour qui ? Pourquoi ? Il faudrait mettre les fermes en viager.
Et tu sais combien tu vas avoir de retraite ?
Non, je ne m'intéresse pas à ma retraite, je ne la prendrai pas. Non, je ralentis. Le corps, mon corps et mon âge me fait ralentir, mais prendre ma retraite définitive, non. Je ne travaille plus, j'ai du plaisir. J'ai du plaisir à travailler. C'est plus une corvée.
Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, le fait que ce soit ta boutique qui rapporte plus que la ferme, ça te dérange ?
Non. La boutique, déjà, elle avait été créée parce que j'étais pas d'accord avec le système. On allait manifester dans les supermarchés, mais on propose rien en face. Donc quand j'avais mis ça, justement, c'était au moment de la vache folle, en l'an 2000. Donc par exemple, un broutard que je vais te montrer tout à l'heure, il valait 300 euros, plus personne ne mangeait de viande. Et là, je me suis décidé à proposer de la viande à des gens autour de moi et d'expliquer, vous n'avez pas besoin d'avoir peur de manger ma viande, puisqu'ils n'ont jamais mangé cette farine-là. On a mis toute la viande dans la même enveloppe. Donc la matière première ne valait rien, donc j'avais plus de plus-value qu'actuellement, que les bêtes en viande ont repris du prix, quoi. Mais j'ai décidé de continuer, et puis c'est tout, quoi. Et comprendre que quand les gens leur expliquent comment ces produits, ils ont confiance. Et le fait que le magasin soit près de la ferme, les parents viennent avec leurs enfants, les enfants voient comment ils sont traités les animaux, et quand ils seront adolescents, ils ne vont pas croire ce que tous nos adolescents, ils croient, les éleveurs font du mal à leurs animaux, ils n'aiment pas leurs animaux, enfin, le cliché, quoi, que des clichés, quoi. La vraie vie. Les vrais gens, les vrais animaux, expliquer que le cochon, il fait que manger, jouer et dormir, mais il faut surtout pas lui dire qu'il va vivre que 6 mois, quoi. Mais il est heureux, et c'est leur destinée, hein. c'est comme ça. Mais maltraiter un animal, non, jamais. Voilà. Et les cochons, c'est uniquement pour vendre au magasin. On n'élève pas
Ah, ils sont beaux. Ouais.
C'est la race du roc.
Ils sont roses et marron.
Tache noire, ouais.
Tache noire.
C'est des races rustiques, quoi.
Et est-ce que parfois tu les mets dans les champs ou jamais?
Ah non, les cochons dans les champs, c'est que pour les Parisiens, ça.
Pourquoi?
Non, c'est des coquins, ça passe partout. Les petits cochons, ils se font bouffer avec les renards. Non, il y a des problèmes. Non, il faut rester raisonnable, techniquement. Mais par contre, ils sont mignons comme tout, quoi. C'est,
ah oui, ils sont mignons.
Après le chien, c'est le cochon le plus facile à domestiquer. Vous en prenez un, au bout de 8 jours, vous pouvez en faire un animal de compagnie.
Ah oui?
Ah oui, ils sont très très curieux.
Il y a quand même un truc qui m'étonne, c'est que les cochons, ils n'ont pas la queue en tire-bouchon, comme on dit.
Non, on leur coupe la queue étant petit. Ça s'appelle la condectomie, c'est légal. Mais pour avoir le droit de couper les queues, il faut avoir mis tout en avant pour que les cochons n'aient pas envie de se manger la queue. Donc il faut leur mettre des jouets. Moi, dans un élevage sur paille, j'ai pas besoin de mettre de jouets parce qu'ils peuvent jouer avec de la paille. Mais dans les élevages industriels, on leur met un ballon, on leur met une chaîne pour. Et une fois qu'on a mis ça, on a le droit de couper les queues légalement.
Il faut expliquer que on coupe la queue des cochons en tire-bouchon parce que sinon, les cochons ont tendance pour s'amuser, à se mordiller la queue, oui. Et donc après, elles saignent, et donc après.
Et ils ont le goût du sang et ils vont le cochon. Là, je sens les crocs des cochons dans mes bottes. Là.
Ah oui.
Voilà, ils s'amusent. Voilà. Mais s'ils font ça avec un collègue, un de leurs congénères, il se fait manger. Donc on leur coupe leur queue, mais c'est pour leur bien-être à eux.
Et toi, il n'y a aucun risque qu'ils te bouffent?
Dans la case des gros, si je fais une crise cardiaque, si personne vient me chercher, il n'y a plus rien. Faut pas rigoler, là ils mordent. Mais c'est naturel, c'est pas de la méchanceté, hein, c'est la nature. Hein.
Ouais.
Seule la nature n'enfreint pas ses règles. C'est pas de moi, c'est de Léonard de Vinci.
Avec ça, je crois qu'on peut conclure, hein. Bon, il faut que je continue mon étape, Patrick.
Et les agriculteurs, on est vraiment plus nombreux. On est 400 000, je crois. On représente 2% de la population, on n'est plus rien. Donc on a beau manifester, on ne représente rien. Mais par contre, on nourrit la planète.
Hein. On t'arrête plus, hein, c'est un plaisir, Patrick.
Non, c'est communiquer, c'est vraiment. Et le métier, c'est un beau métier, c'est le plus beau métier du monde. Le plus beau métier du monde, c'est celui qu'on a choisi. Moi, je l'ai choisi, je ne le subis pas. Et ce qui se passe actuellement, c'est que là, je trouve ça marrant, moi j'ai un petit BEP et dans mon tunnel, j'utilise un salarié 2 jours par semaine qui a fait Sciences Po. C'est incroyable, hein. Donc,
c'est quoi ton tunnel?
Là, on cultive les légumes. Donc finalement, dans la ferme, ça va du persil au cochon, il y a tout ce qu'il faut. Et là, donc, on a la marge du producteur, on a la marge du commerçant, donc je n'ai plus besoin de faire autant de volume pour gagner ma croûte. Donc c'est un système qui est vertueux. Et socialement, c'est incroyable.
Et tu vends du lait, le prix du lait que tu vends ici, il est à combien ?
1,10€. Et c'est que j'explique à mes collègues, actuellement le lait c'est pas si catastrophique que ça, le prix il est à 45 centimes. Mais du lait entier comme on a bu hier soir, il y a autant de frais d'analyse que de frais de lait. Parce que justement, l'Europe veut supprimer les choses non pasteurisées. Quoi. Mais du lait qui a été pasteurisé, c'est pas du lait, c'est de la flotte blanche. Il n'y a pas de microbes, mais ça n'a aucun goût.
Sur Goulven, il y a 500 habitants, il y a combien de paysans ?
7. 7 fermes. Et mon père j'avais trouvé un devoir d'école, donc il aurait eu 86 ans, donc il avait 6-7 ans à l'école. Il y avait 64 fermes. Donc les fermes comme mon grand-père, 7 hectares, on faisait vivre sa famille, et c'est tout quoi.
Bon ben Patrick, je vais te laisser préparer ton tour d'Irlande en tracteur. J'aurais bien aimé t'accompagner.
Tu me suivras.
Ah, oui.
Ben, y en a qui font Saint-Jacques de Compostelle. Ben, pour moi, mes 60 ans, ça va être ça, me vider la tête. J'ai pensé qu'aux autres, toute ma vie, à prendre des décisions, là, je serais livré à moi-même, c'est tout.
Oh là 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 là. J'aurais pu rester des heures avec Patrick et Véronique et écouter Patrick parler de son métier avec passion. Et c'est étonnant de voir comment, quand on confronte les avis des uns et des autres, finalement, il y a des accords sur la finalité, il y a parfois des désaccords sur les moyens pour y arriver, quoi. Et là, j'ai la mer magnifique à ma droite et des plages de sable fin avec des rochers qui bordent le chemin. Et sur ma gauche, de jolies petites maisons face à la mer, certaines pas si petites que ça d'ailleurs. Et sur le sentier, bah oui, il y a un peu plus de monde qu'hier. Hein. Le problème, maintenant qu'il y a du monde, c'est quand j'ai envie de faire pipi. C'est plus difficile d'avoir un petit coin tranquille. Là, je vous parle de tous les soucis du randonneur, hein, c'est important. Je suis passé devant le site de Ménéam, étonnant, avec une petite maison coincée entre des rochers. Il y a un ciel bleu avec des nuages, mais rien d'inquiétant. Et là, je passe devant une magnifique petite chapelle, la chapelle de Saint-Égarec. Alors, il faut savoir que Saint-Égarec, il y a une fontaine juste à côté, était jadis invoqué contre la surdité. On appliquait sur l'oreille une pièce en argent trempée dans un vase d'huile bénite ou dans l'eau de la fontaine, et qu'on laissait ensuite une offrande sur l'autel. Voilà. Et après, peut-être on pouvait mieux entendre. Et la fontaine, elle est surmontée d'une statue en kersanton de Saint-Hervé et de son loup provenant du presbytère de Kerlouan. Et donc là, je commence à me pavaner, et puis je fais une photo, et puis je lis une autre petite pancarte en dessous où il est écrit « La statue surplombant la fontaine représente Saint-Brévalère et non Saint-Hervé comme indiqué par erreur auparavant. » Et voilà. Tout ça parce que Saint-Brévalère, il avait son chien. On a confondu parce que Saint-Hervé, il a un loup. Alors au début, ils ont dû croire que c'était le loup. Et donc, ils se sont dit, c'est Saint-Hervé. Je suis un petit peu sorti du sentier côtier, là, parce que si on longe vraiment toute la côte, c'est hyper long. Et puis, là, en ce 1er mai, il y a plein de touristes. Alors que là, je suis sur un chemin de terre, au milieu de terres agricoles, à Kerlouan. Il n'y a personne. Je suis passé à Guicerny, et là, j'arrive à Plouguerneau, et il y a un jeune homme. Est-ce que je peux avoir votre prénom ?
Olivier.
Quel est votre rêve, Olivier ?
Des bungalows en Thaïlande.
Ah oui? Et pourquoi, vous y êtes déjà allé?
Oui, énormément. J'ai beaucoup voyagé en Asie, ouais.
Et alors, qu'est-ce que vous travaillez le 1er mai?
J'escroque les touristes. Je vends des t-shirts humoristiques.
C'est pas vrai? Ouais. Ah ouais, ouais? Mais alors, vous avez à me montrer?
Ouais.
Bah, c'est en caisse, là.
Vous les vendez au marché ou...
Ouais, marché, galerie commerciale. Marché, galerie commerciale. Pour te donner un petit...
Ah oui, oui.
Un petit...
Ah oui, alors il y a marqué « Je peux pas, j'ai foot », « Les tontons trinqueurs », « Pas besoin de cheveux pour être un super papy », « C'est pas faux » et « Ce n'est pas la mer à boire », avec un verre, avec un bateau dedans.
Alors, on achète des droits à des dessinateurs, il y a des choses qu'on a des conneries dans notre tête, comme « Pas besoin de cheveux », des conneries de phrases qu'on fait nous-mêmes. Mais après, tout ce qui est dessin graphique, on achète ça avec des dessinateurs France-Espagne et on achète les droits pour les vendre.
Et alors là, vous allez en vendre, vous venez d'en vendre quelque part là?
Ouais, j'étais à Roscoff au marché ce matin, à Roscoff sur le port.
Ah oui.
Et puis voilà, me voilà ma journée finie. Là, je vais à l'atelier pour fabriquer ce que j'ai vendu ce matin.
Bon ben, merci.
Et je t'en prie.
Et j'espère que vous allez vivre votre rêve. Hein.
Ouais, ben merci beaucoup. Toi aussi, quel est ton rêve?
Ben moi, c'est d'arriver à Brest.
Et ben, c'est pas un super rêve, un change de rêve. Hein.
Ben pourquoi?
Ça reste Brest, ça reste une ville avec tout ce qui va dans les villes. Voilà, avec la faune et la flore qu'il y a dans les villes actuelles.
Donc je comprends que vous préférez vivre à la campagne.
Exactement. Ouais, on est bien ici, on est tranquille.
Et vous vivez à Plouguerneau ?
Ouais, je vis à Plouguerneau, ouais.
C'est quoi la particularité de Plouguerneau ?
C'est le... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Mince, j'arriverai pas à retrouver le nom. Le coquillage de mer, qu'on n'a pas le droit de pêcher à la pêche.
À l'Ormeau ?
L'Ormeau, l'Ormeau de Plouguerneau.
Ah oui ?
Ouais, l'Ormeau de Plouguerneau, ouais.
Ah,
pas loin d'ailleurs d'ici, sur la route quand on remonte, il y a le vendeur d'Ormeau. Qui est interdit à ramasser en tant que particulier, et, ou alors on a le droit de le ramasser, mais qu'en étant en piéton. On n'a pas le droit d'aller en mer et de plonger et de ramasser de l'ormeau. Eux, ils ont le droit en tant que pro et pas nous. Voilà.
D'accord.
Donc voilà la spécialité de Plouguerneau, l'ormeau de Plouguerneau.
Bon, bah super. Merci alors et bon rêve.
Bon voyage en tout cas.
Merci. Ciao.
Salut.
Et je laisse Olivier rentrer chez lui pendant que moi. Je m'approche de la mer où je vois le phare de l'île Vierge et devant moi quelques bateaux de pêcheurs qui profitent de la marée montante. Et dans mon dos, Plouguerneau et au-dessus de moi, un gros nuage sombre. Alors, je vais en profiter pour terminer cette balado pour vous lire quelques messages. Julien, mon rêve serait de faire George Lang ou Mishka Sayas comme métier. J'ai repris la radio dans une radio associative il y a quelques semaines et cela me fait un bien fou. Vous n'y êtes pas pour rien. J'ai envie d'interviewer tout le monde. Mais je me rends bien compte que c'est un vrai talent et beaucoup de travail. Bravo à vous. Encore merci pour vos partages. Eh ben Julien, merci d'abord pour le compliment et j'espère que vous allez devenir Mishka Sayas ou George Lang. Pour ceux qui ne le connaissent pas, George Lang, il est sur RTL. C'est une référence dans les émissions musicales. Virginie, il est bon d'entendre que pour beaucoup de personnes rencontrées, le rêve est avant tout humain. Vivre en bonne santé avec sa famille, vivre de belles émotions. Et finalement, peu ont un rêve matériel. Cela redonne foi en l'humanité. Alors que vous approchez du but, la moindre des choses est d'apporter ma pierre à l'édifice en vous partageant nos rêves. D'abord, celui de mon fils Joseph, 16 ans. Ce sera son anniversaire vendredi. Il rêve de pouvoir se garder du temps pendant sa scolarité pour être à l'extérieur, au contact de la nature et avec ceux qu'il aime. Bon anniversaire Joseph, avec un jour d'avance. Et maintenant le mien. J'ai mis du temps à le formuler car je pensais au début que mon rêve était d'être libre, de faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. Zéro contrainte. Mais en réalité, je rêve de réussir à me libérer des contraintes que la société ou la famille m'impose et que je m'impose parfois, inconsciemment, pour pouvoir vivre comme bon me semble et partir à la découverte des gens du monde. Voilà. Vous avez déjà beaucoup cheminé ce printemps. J'espère de tout cœur que ce chemin vous aura été aussi bénéfique que votre podcast l'est pour moi. Alors bon chemin, belle rencontre et ciao, Virginie en Seine-Maritime. Merci Virginie. Et savoir si mon chemin était bénéfique, évidemment qu'il est bénéfique. C'est toujours bon de rencontrer des belles personnes, de traverser des émotions. Donc tout va bien. Pierre, qu'est-ce qui me rend heureux, outre ma famille et l'amour qui va avec, le sport avec des copains qui me permet de me dépasser dans la nature, dans la joie et la bonne humeur. La musique, écouter et jouer, et les romans qui me permettent de rêver. Quel est mon rêve ? Voir la Terre depuis l'espace et, plus réaliste, atteindre un niveau de guitare suffisant pour jouer en groupe. À 58 ans, c'est pas gagné. Et avoir assez d'imagination pour inventer des histoires. Mon but, enfin, retrouver l'envie de me remettre à la guitare. J'ai arrêté avec le Covid et je n'arrive pas à m'y remettre. Comme quoi, se rendre heureux et réaliser ses rêves ne va pas toujours de soi. Trois fois merci Hervé et bonne route. Amicalement, Pierre, près de Grenoble, donc pas sur ta route pour t'accueillir, mais ça aurait été sympa. Alors Pierre, il a répondu aux trois questions que je pose depuis Compostelle. Quel est votre but ? Qu'est-ce qui vous rend heureux ? Et là, quel est votre rêve ? Franck, bonjour Hervé, il est 6h45 chaque matin quand je te mets en marche entre mes oreilles. J'enfourche mon vélo pour quelques kilomètres, m'engouffre dans un métro encore sous-peuplé et c'est un bonheur renouvelé de me laisser compter tes bribes de rencontres. C'est étrange comme un rendez-vous si simple a pris une place si particulière dans sans doute beaucoup de vies parmi tes auditeurs. Il y a dans ce travail de toi vers les autres un lien subtil et qui s'étire de vous à nous. Et je me dis que c'est sans doute là que réside le secret de ce que tu réussis à mettre en place dans tes balados. Un mouvement qui nous unit toutes et tous, par-delà les valeurs, les croyances, les pensées, qui souvent nous séparent les uns des autres. J'entends ta marche comme une chaîne humaine qui, par ton appétit de l'autre, donne espoir en ce simple bonheur d'être ensemble, même pour une croisée des chemins. Je te souhaite le meilleur et merci pour la sincérité qui soigne. Franck. Et un dernier pour la route alors que je reçois quelques gouttes. Martin, quel est mon rêve ? Construire une sécurité sociale de l'alimentation. Je ressens une nécessité à le faire quand j'écoute les paysans que tu rencontres pour que leurs paroles soient entendues.
À Montreuil-sur-Isle, des familles ont créé le GAMSI, un groupement d'achat. Je n'ai toujours pas pris le temps de passer les voir le jeudi. C'est la soirée que je réserve à mon amoureuse. Un pas en avant vaut 1000 programmes. J'espère que je les rejoindrai au coin de la rue. J'espère te croiser un jour de balade dans le Dévoluy. Bon vent jusqu'à Brest. Merci Martin, et peut-être à bientôt dans le Dévoluy alors. C'est sur ces petites vaguelettes que se termine la balado au bord de l'eau. Mais on se retrouve demain dès 6h. D'ici là, portez-vous bien et bonne balado à tous. Ciao!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
Well, something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in
opinions.
We do that in every episode too.
We're professional unprofessionals, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.